de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Président Joko Widodo affirme le partenariat ASEAN-Union européenne. Président Jokowi a eu une réunion bilatérale avec le Premier ministre tchèque Petr Fiala. Les États-Unis envisagent d'envoyer un système de missiles Patriot en Ukraine. Les pays occidentaux promettent 16,6 tonnes d'aide hivernale à l'Ukraine. Indonésie et l'Union européenne discutent de la coopération mondiale en matière d'infrastructures EBT. Produits alimentaires et boissons de la République d'Indonésie ont enregistré des transactions de 15,32 millions de dollars au Caire. L'Indonésie s'engage dans une politique d'investissement. Bon, chers auditeurs, voici la nouvelle en complet. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que si les pays membres de l'ASEAN et de l'Union européenne veulent construire un meilleur partenariat, alors le partenariat doit être basé sur l'égalité. Il ne doit y avoir aucune coercition. Cela a été souligné par le président Joko Widodo dans ses remarques lors de sa participation au sommet commémorant le 45e anniversaire du partenariat ASEAN-Union européenne à Bruxelles, en Belgique, mercredi 14 décembre. Il ne peut y avoir de coercition. Il ne devrait plus y avoir de parti qui dicte toujours et pense que ma norme est meilleure que la vôtre. Selon le président Joko Widodo, depuis 45 ans, le partenariat entre l'ASEAN et l'Union européenne a produit de bons résultats. Cependant, d'un autre côté, le chef de l'État a également reconnu que tous les partenariats ne se sont pas bien déroulés. Il y avait donc de nombreux différends à résoudre. Par conséquent, le président Joko Widodo a demandé aux pays membres de l'Union européenne de s'associer à l'égalité envers l'ASEAN. Le président Joko Widodo a tenu une réunion bilatérale avec le premier ministre de la République tchèque, Petr Fiala, dans le cadre de sa visite de travail à Bruxelles, Belgique. Le cours de la réunion, le président Joko Widodo a exprimé sa gratitude pour la sympathie du premier ministre tchèque pour le tremblement de terre à Cianjur, Java occidentale, et a félicité la présidence tchèque au Conseil de l'Union européenne, cette année, coïncidant avec l'élan de 45 ans du partenariat ASEAN-Union européenne. Le président Joko Widodo a également abordé plusieurs sujets, à savoir la coopération économique, de défense et industrielle, stratégique, ainsi que la coopération Indo-Pacifique. Le président espère que le plan d'investissement tchèque pourra être réalisé prochainement. Parallèlement, dans le domaine de la défense et de l'industrie stratégique, le président Joko Widodo a apprécié la participation tchèque à Indo-Défense 2022. Enfin, le président Djokovic a invité les Tchèques à participer au Forum sur les infrastructures Indo-Pacifique qui se tiendra en Indonésie en 2023 pour construire une architecture pour la stabilité, la paix et la prospérité peut être maintenue. Les États-Unis sont en train de finaliser les plans de livraison du système de défense antimissile Patriot à l'Ukraine. Le système de défense antimissile Patriot à la pointe de la technologie est spécialement conçu pour intercepter les attaques de missiles. Une décision finale sur la livraison prévue du système de missiles Patriot sera annoncée par les autorités américaines cette semaine au plus tôt. Cela a été rapporté par Reuters mercredi 14 décembre 2022. Citant les déclarations de trois responsables américains qui ont refusé d'être nommés. Les autorités de Kiev sont connues pour avoir demandé à des partenaires occidentaux d'envoyer une défense antimissile, y compris le système de missiles Patriot de fabrication américaine, pour protéger son territoire des attaques de missiles russes qui visent également les infrastructures énergétiques. Les pays occidentaux ont promis une aide supplémentaire de 1 milliard d'euros ou environ 16,6 billions de roupies pour l'Ukraine comme aide d'urgence hivernale. L'aide supplémentaire répond à la demande du président Volodymyr Zelensky d'aider son pays à faire face à une attaque russe sur son réseau énergétique. Comme l'a rapporté à l'AFP mercredi 14 décembre 2022, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'environ 70 pays et organisations internationales se sont réunis à Paris pour une réunion destinée à permettre aux Ukrainiens de passer cet hiver. Dans un message vidéo lors de la réunion, Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait besoin d'une aide d'environ 800 millions d'euros ou environ 13,2 billions de roupies à court terme pour son secteur énergétique. Le gouvernement indonésien et l'Union européenne ont discuté de la coopération dans le développement des nouvelles infrastructures mondiales d'énergie renouvelable. Dans le cadre de suivi de l'accord de la déclaration des dirigeants du G20 à Bali. Lors de cette réunion, l'Indonésie était représentée par le ministre de coordination de l'économie Erlang Hartanto et l'Union européenne était représentée par la commissaire de l'Union européenne Jutta Urpilainen. Selon un communiqué officiel du ministère de coordination de l'économie à Jakarta mercredi, Erlang Hartanto a déclaré que le gouvernement indonésien est actuellement en phase de préparation pour la mise en œuvre de l'accord JETP, ce partenariat pour une transition énergétique juste, avec les parties prenantes concernées, entre autres, par la mise en place d'une structure institutionnelle interne. Devant des représentants de l'Union européenne, elle a déclaré que l'Indonésie a un grand potentiel pour le secteur des nouvelles énergies renouvelables. Les produits alimentaires et boissons indonésiens ont réussi à récolter des transactions potentielles de 15,32 millions de dollars américains, soit environ 241 milliards de roupies, lors de la 7e exposition Food Africa du 5 au 7 décembre 2020 au Centre international des expositions égyptiennes, EIEC, au Caire, en Égypte. La participation de l'Indonésie à cet événement est une mise en œuvre de la direction du président Joko Widodo pour l'Indonésie d'accroître sa part des exportations vers les marchés non traditionnels. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du développement national des exportations PEN du ministère du Commerce, Didi Sumedi, dans un communiqué en Jakarta mercredi. Outre les aliments et les boissons et les produits agro-dérivés, selon Didi, le ministère du Commerce continue également de faire des efforts pour permettre à d'autres produits locaux d'entrer sur les marchés non traditionnels. L'exposition a réuni 11 acteurs commerciaux indonésiens du secteur de l'alimentation et des boissons et des produits agro-dérivés. Le ministre de l'Investissement, chef du Conseil indonésien de coordination des investissements, Bahlil Lahadalia, a déclaré que le gouvernement indonésien continue de s'engager à élaborer des politiques liées à la géoéconomie et aux avantages géographiques en invitant les investissements en Indonésie par le biais de programmes économiques stratégiques. Le ministre Bahlil, dans ses remarques lors de l'événement de commémoration de la fête nationale du Qatar à Jakarta, mercredi soir 14 décembre, a expliqué qu'il s'agissait d'inviter les flux de capitaux à financer les développements majeurs actuels, dont l'un est le développement de la capitale nationale. Le ministre a déclaré que la croissance économique de l'Indonésie au troisième trimestre 2022 avait atteint 5,72% d'une année sur l'autre. Le ministre Bahlil a déclaré que les investissements du Qatar en Indonésie avaient couvert divers secteurs, tels que le tourisme, les télécommunications, la banque, jusqu'à les finances islamiques. Le ministre a également invité le Qatar à profiter du potentiel d'investissement et de coopération dans d'autres domaines. Il a apprécié les efforts de l'ambassadrice du Qatar en Indonésie, Fauzia Idris Al-Sulaiti, pour soutenir la coopération et renforcer les relations entre l'Indonésie et le Qatar. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici la clé diplomatique ayant pour le titre Le Passaouf travaille indonésien dans un mélange de tissage de soie thaïlandais avec de l'orique javani. 25 collections conçues par Lulut Filabibi, une créatrice de Yogyakarta, sont apparues époustouflantes lors de la Semaine internationale de la mode de la soie thaïlandaise 2022 au Siam Paragon Mall Bangkok, en Thaïlande, vendredi le 9 décembre 2022. Les collections Lulut Filabibi ont été présentées dans un défilé de mode unique en collaboration avec l'ambassade d'Indonésie à Bangkok et le comité de la Semaine internationale de la mode de la soie thaïlandaise en Thaïlande. Avec le thème Le Passau, Lulu a combiné le tissage de la soie thaïlandaise avec le javani dans ses œuvres et a également présenté ses dernières collections. L'ambassadeur d'Indonésie auprès du Royaume de Thaïlande et de l'UNESCO, Rahmat Budiman, a souligné que la participation de l'Indonésie à ce grand événement vise à présenter la créativité des enfants de la nation au peuple thaïlandais et à promouvoir l'un des beaux vêtements traditionnels de l'île de Java. Lulu est connue pour avoir remporté le concours de design de mode. Son travail a été exposé lors de plusieurs événements internationaux en Autriche et en Corée du Sud. Ce défilé de mode solo a réuni environ 300 personnes venant du corps diplomatique, des représentants du gouvernement, des observateurs de la mode et des habitants de Thaïlande et d'Indonésie. La troisième semaine internationale de la mode de la soie thaïlandaise fait partie du programme du gouvernement thaïlandais visant à promouvoir le tissage de la soie sur le thème « Route de la soie thaïlandaise vers le monde 2022 ». Il y avait quelque chose de différent dans la Semaine internationale de la mode de la soie thaïlandaise cette fois-ci. Des œuvres de designers du monde qui viennent de divers pays ont également été incluses dans le premier concours international de design de soie thaïlandaise 2022. Le travail de Lulu a été sélectionné parmi les 12 meilleurs finalistes avec des designers du Canada, de Hongrie, du Vietnam, de Pologne, du Maroc, du Panama, de Singapour, d'Espagne, de Mongolie, du Mexique et de Hong Kong. L'ambassade d'Indonésie à Bangkok a également profité de cette occasion pour promouvoir les arts et les cultures à travers le stand indonésien. Outre l'exposition de plusieurs collections de littérature indonésienne sous forme de batik, plusieurs expositions d'instruments de musique miniature, de temples, de statues et de bannières pour les destinations touristiques prioritaires de l'Indonésie ont également été présentées. Les visiteurs qui ont assisté au stand indonésien ont également eu l'occasion d'obtenir des foulards en batik et d'autres souvenirs indonésiens. Ces auditeurs, c'était la clé diplomatique pour ce soir. Ces auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 15 décembre 1945, la journée de lutte Kartika de l'armée indonésienne. Le jour de lutte Kartika de l'armée indonésienne est commémoré en mémoire de la bataille de Ambarawa. La lutte de l'armée populaire de sécurité menée par le général Sudirman à la mi-décembre 1945 contraint les troupes alliées à se coincer et finit par se retirer de Ambarawa vers Semarang. La victoire de la bataille de Ambarawa est le 15 décembre 1945. Le succès du grand commandant général Sudirman est immortalisé sous la forme du monument Palagan Ambarawa. L'armée indonésienne commémore cette date chaque année comme la journée de l'infanterie. Basée sur un décret présidentiel en 1999, la journée de l'infanterie a ensuite été remplacée par le nom la journée de lutte Kartika. Nous passons au prochain événement en 2008, la signature de la Charte de l'ASEAN. La Charte de l'ASEAN est le statut de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Ce document est adopté lors du 13e sommet de l'ASEAN à Singapour, novembre 2007, et est entré en vigueur le 15 décembre 2008. L'entrée en vigueur de la Charte de l'ASEAN est aussi un symbole des 10 pays membres qui maintiennent encore la cohésion et l'engagement à former une communauté solide en Asie du Sud-Est. nous terminons l'histoire du jour avec l'événement en 2011. Les États-Unis ont déclaré la guerre en Irak officiellement terminée. La guerre en Irak, où les États-Unis appellent l'opération de la liberté irakienne, ont commencé avec l'invasion de l'Irak en 2003. La guerre a été menée par une coalition des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Ils ont accusé l'Irak de posséder des armes de destruction massive. Cependant, l'équipe d'inspection des armes des Nations Unies n'a jamais trouvé d'armes de destruction massive. Le 15 décembre 2011, les États-Unis ont déclaré la fin de la guerre en Irak. Cela a été marqué par une déclaration sur la clôture de la mission militaire des troupes américaines en Irak par le secrétaire à la défense des États-Unis de l'époque, Leon Panetta. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Burning my bride through the city in the night, looking for the spotlights to shine, shining down on me so bright. Driving my bride through the city in the night, everything is good and all right. We're gonna party till the morning light.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, La voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la vie suivante, voici donc mon Indonésie et en pour le titre « Visite Riau, le monde apprend le succès de la gestion de la troupe en Indonésie ». Des représentants de 14 pays et de diverses institutions internationales ont étudié l'expérience et le succès de l'Indonésie dans la gestion des tourbières. Cette activité a été regroupée dans un atelier international sur la protection et la gestion des écosystèmes des tourbières qui s'est tenu à Pekanbaru, Riau, du 13 au 15 décembre 2022. La ministre indonésienne de l'environnement et des forêts, Siti Nurbaya, dans son allocution prononcée virtuellement mardi 13 décembre, a déclaré que l'Indonésie réglementait la gestion des tourbières depuis 1990. Cependant, les incendies de forêt et de terre qui se sont produits en 2015 ont marqué un tournant dans la formulation des politiques de renforcement de la troupe, la mise en œuvre de l'amélioration et de la restauration ainsi que l'application de la loi. L'un des résultats, l'Indonésie a réussi à éviter la catastrophe de la brume ces dernières années. Siti Nurbaya a ajouté que sur la base de ses expériences et réalisations, l'Indonésie estime que les tourbières dégradées peuvent être restaurées et utilisées de manière durable. L'Indonésie a fait de la restauration des tourbières et de la prévention des incendies de tourbières l'un des principaux axes des forêts et autres utilisations des terres puits nets ou folou 2030. La ministre des Forêts et de l'Environnement a souligné que l'Indonésie était prête à partager ses expériences et à échanger des leçons. Il espère que cet atelier rassemblera et fédérera un soutien mutuel pour la protection et la gestion des écosystèmes des tourbières. Pendant ce temps, le ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth, à l'énergie, au climat et à l'environnement, Rod Goldsmith, dans ses remarques virtuelles, a reconnu que l'Indonésie avait fait un travail extraordinaire dans la gestion des tourbières. Lorsqu'il visite l'Indonésie et la voit de ses propres yeux, il pense que l'Indonésie est actuellement le chef de file mondial dans la protection et la restauration des tourbières. Selon Goldsmith, l'Indonésie a pris une décision très courageuse en arrêtant de nouveaux permis sur la forêt primaire et les tourbières qui couvrent 66 millions d'hectares et en fixant des objectifs ambitieux sur les tourbières ou les mangroves. Il a déclaré que le Royaume-Uni était prêt à soutenir les ambitions de l'Indonésie pour Follow Net 5 2030. Outre l'atelier de Pekanbaru, les participants de 14 pays ont également visité plusieurs sites de restauration de la troupe dans la ville de Dumai, Bengkalis et le district de Siak. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Membuatku tak berhenti membayang. saja buat aku memikirkan dirimu. Oh, tapi kali ini aku merasakan hal yang baru. Ku jadi ragu dan malu padamu. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu.
Membayangkan dirimu,
senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu.
Dirimu, oh dirimu,
suara dan parasmu,
senyuman manjamu.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, le plus jeune fils du président du Kowidodo, Kaisang Pangarep et Erina Gudono, ont organisé une réception de mariage au Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran à Solo, dans le centre de Jawa, dimanche 11 décembre 2022. Pendopo ou Pendapa est une grande structure en forme de pavillon construite sur des pôles. Le pavillon, qui est l'un des bâtiments du complexe du temple Mangkunegaran, est le plus grand pavillon du palais d'Indonésie. Ce bâtiment en forme de joglo mesure environ 3500 m². D'une superficie de 3500 m², Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Pendopo Ageng compte 108 piliers. Le nombre 108 lui-même est composé de nombres 1, 0 et 8. Lorsque les nombres sont additionnés, les trois nombres forment le nombre 9. Le nombre 9 est le plus grand nombre pour les Javanais. De plus, 9 symbolise également le nombre de trous dans le corps humain, donc tous doivent être pris en charge. De plus, le Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran a de 4 soko guru qui se trouvent en plein milieu du bâtiment. Soko guru signifie 4 pôles ou piliers principaux. De manière unique, les 4 piliers principaux sont fabriqués à partir d'un seul arbre provenant de la forêt de Donoloyo à Wonogiri, au centre de Jawa. Les 4 piliers principaux symbolisent les éléments qui soutiennent la vie humaine, à savoir la terre, l'eau, le feu et l'air. Chers auditeurs, si vous visitez le Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran, vous verrez que ce pendopo est dominé par les couleurs jaune et verte. Ces couleurs ne sont pas choisies de manière imprudente. Les jaunes et les verts sont les couleurs du Pari Anom, qui sont les couleurs typiques de la famille Mangkunegaran. Au plafond du pendopo s'étend le batik Kumudowati. Ce tissu batik est divisé en 8 carrés où la partie centrale de chaque carré a des couleurs et des significations différentes. Le jaune signifie prévenir la somnolence, le bleu prévenir les catastrophes, le noir prévenir la faim et le vert prévenir la frustration. De plus, la couleur blanche prévient la luxure, l'orange prévient les sentiments de peur, le rouge prévient le crime et le violet prévient les mauvaises pensées. Il y a aussi trois gamelans dans le pendopo agung pour manque de garan. Les trois gamelans incluent Kiai Seton, les Poursari, Kiai Kenyut Mesum. L'un des gamelans à savoir Kiai Seton a plus de 100 ans. Les trois gamelans sont généralement joués à certains moments tels que les cérémonies traditionnelles, l'accueil des invités et la pratique de la danse. Pour le sol lui-même, il est en marbre italien. Vous devez ouvrir vos chaussures lorsque vous entrez dans ce pendopo. Pendant ce temps, les lustres qui ornent le toit de pendopo viennent des Pays-Bas. Ces auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Bebah Kopi, une entreprise de café de Jakarta, déjà mondiale. Bebah Kopi, une entreprise de café locale de Jakarta, exporte ses produits vers de nombreux pays. Même s'il est originaire de Jakarta, Bebah Kopi fabrique une variété de produits de café en autonomisant les caféiculteurs de nombreuses régions d'Indonésie. Le personnel de gestion de la technologie de Bebah Kopi, M. An Naufal, a mentionné des régions qui sont des sources de matières premières pour leurs produits à base de café. Il expliquait que l'origine du café vient de toute l'Indonésie, entre autres Tangsé, Gayo, Lintong et Wamena. Pour les types de produits commercialisés, Bebah Kopi propose trois types de produits principaux, à savoir les grains moulus, les grains torréfiés et le café moulu. Depuis 2020, Bebah Kopi a commencé à commercialiser ses produits auprès d'acteurs commerciaux à l'étranger, comme le Kazakhstan, l'Égypte, les États-Unis et des autres pays. En 2022, ils ont expédié des produits au Japon et en Corée du Sud. La supériorité de leurs produits réside dans leurs produits de café de spécialité. Cela signifie que chaque produit de café commercialisé a un arôme et une qualité gustative de première qualité. Bebah Kopi possède également différents types de café provenant de différentes régions locales afin de pouvoir proposer des produits à base de café aux saveurs et arômes différents. L'Indonésie continue de chercher des opportunités pour avoir de nouvelles parts de marché international pour les produits de café. Sur la base des données du ministère des Affaires étrangères, la valeur des exportations de café indonésien vers la Russie en 2020 a atteint 31,95 millions de dollars américains, soit une augmentation de 59,6% par rapport aux 20,15 millions de dollars américains en 2019. Grâce à cette réalisation, l'Indonésie s'est classée l'année dernière au 5e rang des exportateurs de café vers la Russie, après le Vietnam, le Brésil, l'Italie et l'Allemagne. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Apakah dia sudah ada yang punya? menyapanya. Siapakah dia ada di sana? Hati ini bertanya-tanya. Tak kusangka ku jatuh cinta pada pandangan pertama.
Siapakah dia ada di sana? Tuhan bantuku mengenalnya. Takkan ku minta hal yang lainnya.
Hanya engkau gadis, kau gadis di ujung sana.
Mungkin inilah yang dinamakan cinta.
Bisa bersama menjalin cinta untuk selamanya.
Oh, siapakah dia ada di sana? Hati ini bertanya-tanya. Tak kusangka ku jatuh cinta pada pandangan.
Voice of Indonesia.
Girl, oh, take it.
Georges Letard, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Et ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Glenn Fredly. Chers amis, Glenn Fredly a commencé sa carrière en tant que chanteur pour le groupe Fun Section. En 1995, Fun Section a sorti un album exclusif qui était bien emballé. Mais 3 ans plus tard, à savoir en 1998, Glenn a décidé de se lancer en tant que chanteur solo et sort un album intitulé Glenn. La chanson principale de l'album contient 8 chansons, à savoir la chanson Cukup Sudah, c'est taché en français, raconte l'histoire d'une relation entre 2 amants sans espoir. Bon, chers joueurs, voici Glenn Fredly va chanter une chanson intitulée Cukup Sudah. Bonne écoute.
Oh, come on, to the beat, yo. Cukup Sudah.
Bagaikan buang waktu saja, gonggong berbunyi dan waktu terus berganti. Yeah. Janganlah kau datang kembali.
Check. With this girl, what you looking for? If you're looking for love, no more. Step back, turn around and close the door. Do that. Do exactly the things that I told you, Fred. Do that.
Yeah.
Do that.
Oh, oh, oh.
Come on.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.